petit mot donc sur moi. Pour commencer, je suis né dans une famille non chrétienne. Je me suis converti quand j'avais 21 ans. C'était aux États-Unis. C'était par amitié, on va dire, au contact d'autres chrétiens. Je suis allé faire un an à l'étranger. Et en fait, à force de passer du temps avec des chrétiens, j'ai fini par voir le style de vie qu'ils avaient. Et finalement, pour moi, c'est pas tant passé par des questionnements, même s'il y avait des questions, mais c'était par l'immersion en fait dans le milieu chrétien, jusqu'au point où je me suis rendu compte que j'avais envie que ce soit vrai. Ça réglait pas la question de est-ce que c'est vrai, mais c'est ce qui m'a vraiment donné envie de chercher si c'était vrai. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera ce soir. C'est vraiment la question de donner envie. Faut que notre message donne envie. Si notre message ne donne pas envie, toutes les objections que vous rencontrerez resteront purement intellectuelles et même si elles sont résolues, la personne n'aura pas forcément envie d'avancer. Donc voilà, je me suis converti à 21 ans et c'est vrai que pour moi, immédiatement, comme j'étais quelqu'un qui déjà réfléchissait un peu avant, d'autant plus depuis que je suis devenu chrétien, je me suis mis à réfléchir à tout un tas de trucs, parce que ça a été assez bouleversant tout d'un coup de changer tout ce que je croyais à propos de tout, quoi, finalement. Enfin, pas tout, mais bon, une grande partie quand même. Et du coup, ça m'a lancé dans la réflexion. Et depuis que je me suis converti, donc c'était en 2008, j'ai tenu un blog où je rédigeais en fait quasiment chaque jour des pensées, des réflexions, des questions que j'abordais sur si Dieu existe, comment est-ce que je peux le démontrer, comment est-ce que ça peut être pertinent, comment est-ce que ça peut être bon. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans, puis après j'ai commencé un site web. Et puis là, je vais lancer un deuxième site web en collaboration avec d'autres personnes où, voilà, le but, ça va être plus particulièrement de s'orienter sur la culture et comment est-ce qu'on peut utiliser la culture pour démontrer notre foi, démontrer qu'elle est vraie, démontrer qu'elle est pertinente aujourd'hui. Je vous ai amené un livre que j'appellerai modestement la Bible de l'apologétique. Ça s'appelle Croire, expliquer, vivre. C'est mon prof de la faculté Jean Calvin qui l'a fait. Oui, parce que après m'être converti, du coup, ici, j'ai fini mes études et puis après, j'ai fait des études de théologie. Ce qui m'amène ici aujourd'hui. Oui, il y a aussi l'institution de la religion chrétienne. C'est pas mal. Donc voilà, tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais essayer de vous transmettre dans la méthode, c'est expliqué dans ce livre. C'est vraiment un livre qui est très abordable, c'est une introduction, donc c'est pas un livre de spécialiste. C'est un livre qui repart de la Genèse pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'apologétique, pourquoi ça se pratique, comment ça se pratique. Il y a pas mal d'exemples particuliers sur l'islam, sur le bouddhisme, sur l'athéisme aussi, qui sont pas mal à utiliser. Donc voilà, je laisserai par ici si vous voulez y jeter un œil plus tard. Donc, pour ce soir, on m'a transmis le top 3 des questions que vous avez fait remonter à vos chefs, à Clément ou ceux qui vous ont posé la question. Tout d'abord, donc, vous avez déjà eu des formations sur l'apologétique, si j'ai bien compris, cette semaine, donc je ne vais pas recommencer tout depuis le départ. Je vais juste donner une approche particulière, l'approche que j'utilise moi, l'approche que utilise généralement la théologie réformée. C'est l'approche, bon, peu importe les noms particuliers, mais globalement c'est l'approche par les visions du monde. C'est-à-dire qu'on va aborder la personne qui est en face de nous par sa vision du monde. Une vision du monde, globalement, ça se réduit à 4 questions. C'est un peu le cadre de notre pensée, de notre réflexion, de notre connaissance. La première question, c'est qu'est-ce qui est l'absolu? Qu'est-ce que la réalité ultime? Pour nous, l'absolu, c'est Dieu, le Dieu trinitaire. Pour une autre personne, ça peut être une sorte de divin impersonnel, ça peut être simplement rien. Il n'y a rien, il y a l'univers, il y a la matière. C'est peut-être ça, l'absolu. C'est quelle est la chose qui explique quelle est la nature, l'essence de l'univers autour de nous. La deuxième question, c'est qu'est-ce que l'humain? Donc ça, c'est toute la question de l'anthropologie. Qu'est-ce qu'on fait là? Quelle est notre place dans l'univers? Est-ce qu'il y a un ordre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Etc. La troisième question, c'est la question de la connaissance. Comment on peut savoir quelque chose? Comment on sait qu'on sait? Et la quatrième et dernière question, c'est l'éthique. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Pour résumer, tout le monde ne l'exprime pas comme ça, mais il y a toujours globalement une idée de qu'est-ce qu'il est convenable, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est utile de faire et qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui n'est pas convenable. Donc voilà, l'absolu, l'humain, la connaissance et l'éthique. C'est un peu les 4 axes selon lesquels une vision du monde se définit. Et c'est par rapport à ça, en fait, qu'on fait de l'apologétique. C'est toujours un contraste. On a une vision du monde qui est fondamentalement différente de la vision du monde de quelqu'un d'autre. En surface, il peut y avoir des endroits où ça se rejoint, mais si au fond, ce n'est pas les mêmes choses, généralement, même si on a l'impression d'être d'accord en surface, tant qu'on restera dans ce débat de surface, on n'ira nulle part. Ce qu'il faut faire quand on fait de l'apologétique, c'est remettre en question toute la vision du monde. Parce que toute la vision du monde est cohérente, généralement. C'est-à-dire que c'est en fonction de la connaissance, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait, qu'on va décider ce qui est bien, ce qui est mal, qu'on va décider ce qu'on sait sur l'humain ou sur la réalité. C'est en fonction de la réalité qu'on va décider comment on sait ce qu'on sait. C'est la vision du monde, c'est ce qui n'a pas de fondement en soi. C'est quelque chose qui est transmis, en fait. Quand on est dans une famille chrétienne, généralement, on va adopter la vision du monde de notre famille chrétienne. Quand on est dans une société généralement athée, on va avoir tendance à adopter la vision du monde d'une société athée. Donc voilà, la vision du monde, ça s'exprime de diverses manières, en partie dans la religion, en partie dans la culture. Et du coup, ce qui va être important de faire, ça va être d'adapter votre témoignage ou le débat que vous avez lancé avec la personne, les questions qu'elle vous pose. Il faudra adapter votre discours à ses références. Il faudra que ce que vous dites ait un sens dans sa vision du monde. Imaginons que une des questions que je vais aborder ensuite, c'est la question comment on parle à un bouddhiste. Et c'est vrai que, par exemple, pour les bouddhistes, il n'y a pas de notion de péché. Donc, comment est-ce qu'on lui transmet l'enseignement chrétien? Comment est-ce qu'on lui transmet une image de notre vision du monde si pour lui, péché, ça ne veut rien dire? Donc, pour ça, c'est important de savoir quelle est sa vision du monde. Un exemple biblique, quand même, pour faire... théologien. C'est la minute du théologien, donc si vous voulez vous endormir ou me jeter des chaises, c'est le moment. En acte 26, il y a Paul qui est en train de rendre compte de son expérience avec Jésus sur la route de Damas, devant un roi, le roi Agrippa, qui connaît les écritures juives et qui croit en Dieu, mais qui est de culture grecque, et devant le proconsul Félix, qui est lui aussi de culture grecque. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul ne relate pas la même histoire que celle qu'il a relatée devant les apôtres. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de la cécité, par exemple. Il ne dit pas qu'il est devenu aveugle et qu'ensuite il est allé quelque part et que c'était Jésus qui lui avait dit, etc. Ce qu'il dit très précisément, c'est que tout d'un coup, Jésus apparaît et Jésus lui dit « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » Alors, il y a beaucoup de théologiens qui ont versé beaucoup d'encre sur cette phrase cryptique, ignorant complètement qu'en fait, c'est une citation d'une pièce de théâtre grecque qui a été écrite 3 siècles avant l'époque de Paul. Et en fait, quand on parcourt les écrits de Paul et même l'évangile de Luc et le livre des Actes, on voit qu'il y a beaucoup de citations de cette époque-là. À Athènes, devant l'Agora, Paul cite aussi un poète et un écrivain qui ont écrit des œuvres de cette époque-là. Donc, 3e siècle avant Jésus-Christ, c'était un peu ce qui était à la mode. Donc, Paul est en train de raconter son histoire en disant que Jésus a cité une pièce grecque. Ce qui est assez intéressant, parce que c'est bizarre quand même que Jésus s'adresse à Paul en citant une pièce grecque, même si Paul la connaissait certainement. À mon avis, Jésus, quand il est apparu à Paul, il n'a pas cité la pièce grecque. Seulement pour transmettre la situation d'une manière qui soit compréhensible par le roi, Paul a utilisé cette citation. Et en fait, dans cette pièce grecque, dans son contexte, il s'agit d'un dieu qui est en train de revenir dans sa ville natale pour y développer de nouveau son culte, et d'un roi qui le fait arrêter, croyant que c'est juste un prêtre qui essaie d'établir un nouveau culte, et qui lui dit « Non, retourne d'où tu viens avec ton culte, on n'en veut pas chez nous, etc. » Donc il y a une situation à la fois d'injustice, et d'un prêtre qui est en train de rétablir un vrai culte, et d'un roi qui persécute à tort un dieu. Et donc ça marche à la fois pour la situation avec Paul et Jésus, où Jésus était vraiment le Dieu et Paul était le prêtre qui le persécutait, et en même temps pour la situation avec Agrippa, qui était le roi qui persécutait un prêtre. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y aura bientôt un article que j'ai écrit qui essaie de développer plus la question, mais ça nous donne une idée de ce qu'on peut faire, de la manière d'être créatif en fait, dans notre apologétique, pour présenter les choses d'une manière qui va être comprise. Alors, première question, oui. Si s'il y a des moments où vous avez où je vais trop vite ou si vous décrochez, bon, j'essaierai de vous regarder. Si je vois trop de gens dormir, je ferai une pause ou je changerai de tactique. Mais s'il y a vraiment des moments où vous avez décroché, que vous ne suivez plus du tout, levez la main et puis interrompez-moi et on pourra échanger. Donc, je vais aborder trois questions. La première question, ça va être comment répondre à un bouddhiste, à un brahmaniste ou à un taoïste ? Comment trouver le chemin pour leur annoncer l'évangile ? Et là, c'est le moment où c'est à vous de participer un peu. Alors, comment vous annoncez l'évangile à quelqu'un qui a une religion qui vient d'Extrême-Orient, bouddhiste, brahmaniste, taoïste ? Est-ce que vous avez des idées ? C'est quoi ? C'est bien, tu as écouté. C'est pas sûr que la personne en face de toi sache ce que tu veux dire par vision du monde, mais effectivement, voilà, faut écouter la personne, essayer de définir clairement ce qu'elle croit. La chose la meilleure. Oui, voilà. D'autres idées ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà un peu le bouddhisme ou le brahmanisme ou le taoïsme ? Non. Bon, personnellement, moi non plus, je connaissais, enfin, à part le bouddhisme que j'avais un peu étudié, je connais le brahmanisme, je savais même pas que c'était le taoïsme, je connaissais de nom, mais pas plus que ça, donc... Il faut se rendre compte que bon, pour les religions d'Extrême-Orient, c'est très difficile de les définir en quelques mots. Donc ce que je vais vous donner ce soir, c'est un survol. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose d'approfondi. De toute façon, je n'ai même pas le temps de le faire. Mais c'est un peu comme dans le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Il y a plusieurs courants. Et entre ces courants, il y a des notions qui ont les mêmes mots ou qui ont des mots différents et c'est les mêmes. Ou alors, il y a le même mot et c'est des notions complètement différentes. Donc encore une fois, ça dépendra vraiment de qui vous avez en face de vous. Ceci dit, l'avantage entre le bouddhisme et le brahmanisme, alors le brahmanisme, si j'ai bien compris, parce que c'est un de ces mots qui peut vouloir dire plein de choses, c'est une sorte de courant au sein de l'hindouisme. Or, ce qui est bien entre le bouddhisme et l'hindouisme, c'est qu'ils ont une notion qui est la même dans les deux religions, c'est le karma. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans le livre des Actes, c'est que Paul... et même Luc, en général, ne cherche pas avant tout à mettre en avant une question de prophétie, comme par exemple chez les Juifs, il cherche avant tout à mettre en avant une question de justice. Le grand débat philosophique parmi les Grecs à l'époque de Paul et de Jésus, c'était comment est-ce que Dieu peut être juste, puisqu'il y a tant de mal dans le monde, est-ce qu'il s'implique dans notre vie ou pas, est-ce qu'il est personnel ou pas, est-ce qu'il peut faire quelque chose ou pas. Donc il discutait beaucoup de ça. Et c'est vraiment un truc que Paul met beaucoup en avant, la justice de Dieu. Il dit beaucoup le mot justice, etc. Donc si on veut transmettre, par exemple, la notion de péché, qui est liée à la notion de justice, il faut aborder la question du karma. Alors, le karma... C'est globalement l'idée qu'on accumule, c'est un peu capitaliste, mais on accumule du bon ou du mauvais potentiel à chaque fois qu'on fait de bonnes ou de mauvaises actions. Alors après, chaque courant a sa propre idée de ce qu'est une bonne ou une mauvaise action, il y a des généralités, mais globalement, c'est ça l'idée. Et c'est qu'on ne passe pas une seule vie, mais on passe plusieurs vies à accumuler donc, dans du bien, du bon ou du mauvais. On commence quand on... protozoaires ou en microbes, et puis au final, on se retrouve humain. Et ensuite, humain, bah, on reste bloqué au niveau d'humain. Si on accumule trop de mauvais karma, on revient en arrière, on redevient, un renard ou autre. Et ensuite, on recommence. Donc, il y a une échelle de progression, un peu comme dans un jeu vidéo. En fait, on a des niveaux, et puis si on fait trop de mal, on perd des niveaux. Et du coup, l'idée, c'est que même quand on commence notre vie, c'est peut-être pas la première. Et si ce n'est pas la première vie, ça veut dire qu'on a déjà soit accumulé du bien, soit accumulé du mauvais. Et tout ça, ça va avoir une influence sur notre situation et sur ce qui va nous arriver dans la vie. S'il nous arrive des mauvaises choses et que malgré tout on fait des bonnes choses, ça compte double. S'il nous arrive des bonnes choses et que malgré tout on fait des mauvaises choses, ça compte double aussi, mais en mauvais. Mais globalement, l'idée, c'est que si on a de mauvaises circonstances, s'il nous arrive des mauvaises choses, quelque part, c'est qu'on l'a mérité. C'est-à-dire qu'on est directement avec des conditions qu'on ne contrôle pas. Donc il y a cette idée que si on souffre, bah, c'est de notre faute. Du coup, c'est quelque chose de complètement, enfin, c'est complètement l'opposé de la vision chrétienne des choses. C'est-à-dire que pour nous, le mal n'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose qui fait partie de la réalité, c'est pas quelque chose non plus que Dieu veut pour nous. Donc la réaction qu'on va avoir par rapport à ça est complètement différente. Quelqu'un dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, il va voir quelqu'un souffrir. S'il va l'aider pour l'empêcher de souffrir, il est en train de l'empêcher de brûler son mauvais karma. Parce que si vous souffrez à cause de votre mauvais karma, bah, ça annule le mauvais karma. Donc c'est normal que vous souffriez puisque vous avez fait des trucs mauvais. Donc si vous souffrez, ça vous fait réduire votre mauvais karma et ça vous augmente votre bon karma. Donc, pardon? C'est une sorte de purgatoire en fait. La vie est une sorte de purgatoire. Et donc, si vous empêchez quelqu'un de souffrir, vous bloquez le processus et vous le ralentissez dans son échelle de progression. Ce qui fait que, par exemple, un bouddhiste va. On parle de compassion bouddhiste et d'amour chrétien, et on dit c'est globalement la même chose. Mais en fait, pas du tout. Un bouddhiste va, de temps en temps, dans des circonstances particulières, peut-être faire un effort pour aider quelqu'un qui souffre, alors que l'amour chrétien, c'est normalement systématique. Alors, plutôt, ce sera exceptionnel qu'on ne fasse pas un effort pour aider quelqu'un qui souffre. Il peut y avoir des circonstances particulières. Donc ça peut être un terrain intéressant. Parce que du coup, chaque individu souffre. Et si vous commencez à lui dire, bah oui, mais du coup, dans ta vision du monde, si tu souffres, c'est de ta faute. Et du coup, faut pas qu'on t'aide. Alors que dans ma vision du monde, bah, si tu souffres, il y a des gens qui viennent t'aider, etc. Et on peut facilement montrer que c'est quand même mieux que les gens s'entraident. Et c'est quand même ce que la personne désire. Elle ne veut pas croire que tout ce qui lui arrive de mal, c'est de sa faute. Ouais. Voilà. Alors, pour la question, c'est comment est-ce qu'on peut justifier, par exemple dans le bouddhisme, la compassion, si systématiquement aider quelqu'un qui souffre, ça l'empêche de progresser, ça l'empêche d'être purifié de son mauvais karma. Il y a des situations, je pense que dans le bouddhisme comme dans l'hindouisme, tout ne se résume pas au mauvais karma, puisque on est quand même dans un système très complexe où il y a beaucoup de gens et donc beaucoup de bons ou de mauvais karma. Il peut y avoir des gens qui font de mauvaises actions malgré le bien qui leur arrive. Donc il peut y avoir des gens qui, entre guillemets, créent du mal et d'autres personnes qui peuvent avoir du bon karma mais qui vont souffrir alors qu'elles ne l'ont pas forcément mérité. Donc il faut distinguer. On ne peut pas forcément toujours le savoir. Mais il faut distinguer, il y a des fois le mal nous arrive parce que c'est quelqu'un d'autre qui fait du mal, qui crée du mauvais karma, et puis il y a des fois ça nous arrive parce qu'on le mérite, des situations de départ. Ça peut être par exemple dans l'hindouisme, ça se voit au niveau de la notion de caste, enfin, qui est plutôt une notion indienne qu'hindouiste, mais qui est souvent bien ancrée chez les gens, chez les Indiens qui sont hindous. La notion de. On est dans une caste en fonction du bien qu'on a fait ou du mal qu'on a fait, donc on mérite d'être là, donc faut pas en sortir. Il y a une notion d'ordre quand même dans la société. Donc globalement, c'est le karma qui marche. Il y a des exceptions parce qu'il y a quand même une certaine liberté humaine à ce niveau-là. Donc il peut exceptionnellement y avoir des moments où si on a du bon karma, on peut accumuler en aidant quelqu'un qui ne souffre pas à cause de son propre karma ou en empêchant quelqu'un de faire du mal. Donc voilà. Mais bon, il faudra vraiment voir, parce que ça c'est une question générale. Individuellement, des gens peuvent avoir une vision complètement différente de ça. S'ils vous sortent une vision chrétienne du karma, où en fait pour eux le karma c'est pas important, et ils vous parlent d'amour chrétien en nommant ça compassion bouddhiste ou compassion hindoue, et en vous disant c'est la même chose, dans ce cas-là, il faut leur demander d'où est-ce qu'ils tirent ça. Parce que ça ne vient pas de leur religion. Dans ces cas-là, ils mélangent plusieurs choses et c'est pas cohérent en fait avec leur propre vision du monde. Auquel cas, bah, faut qu'ils soient un peu plus cohérents. Une des choses qui est intéressante à faire, c'est que quand on compare les visions du monde, quand on va explorer la vision du monde de la personne qu'on a en face de nous, Ce qui peut être intéressant, c'est de souligner les tensions ou les contradictions internes. Généralement, on n'a pas une vision du monde qui est parfaitement cohérente, surtout quand elle est fausse. Donc, étant donné qu'on est chrétien, on considère que notre vision du monde est la vraie, et forcément que la vision du monde des autres est fausse. Mais en fait, ça, tout le monde le fait. On considère tous que notre vision du monde est vraie et que celle des autres est fausse. Donc, si on considère qu'elle est fausse, a priori, il doit y avoir un moment où soit elle se contredit en interne, soit elle n'est pas cohérente avec la réalité. Et donc, c'est ça qu'on va chercher à mettre en évidence pour les autres, que leur vision du monde, il manque quelque chose, elle est limitée, elle n'explique pas complètement les choses, elle n'est pas complètement satisfaisante. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, ça leur donnera peut-être envie de trouver autre chose. Et à ce moment-là, on pourra leur présenter, par contraste, notre vision des choses. Donc, voilà, pour bouddhistes et brahmanistes, la question du karma. Pour le taoïsme, alors le taoïsme, si d'après mes recherches, ça a été fondé par Lao Tzu, qui a écrit du coup le Tao Te Ching. Et ce qui est génial avec le Tao Te Ching, c'est que ça commence par la phrase. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il faut suivre une voie. Et cette voie, ça s'appelle le Tao. Et donc, si je ne me trompe pas, la première phrase, c'est que si le Tao est exprimé en parole humaine, alors ce n'est pas le Tao. Globalement, le Tao n'est pas exprimable, n'est pas explicable en paroles humaines. Donc déjà, on est bien parti, on ne peut pas avoir un dialogue rationnel sur le Tao. Faudrait que je lise le livre plus pour me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire au-delà de cette phrase-là ? Je ne suis pas du tout spécialiste, hein, j'ai découvert ça il y a quelques jours, donc je ne peux pas aller très loin. Par contre, ce que ça peut nous dire, c'est que, puisque ça nous présente une voie, donc une éthique, quelque chose à suivre, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Et ça nous révèle une connaissance. Rien que le fait de dire que le Tao ne peut pas être exprimé en parole humaine, c'est déjà exprimer quelque chose à propos du Tao, en parole humaine. Donc il y a peut-être une contradiction interne là qui est à explorer. Et surtout, ça nous dit que si le Tao, donc la vision du monde, la structure fondamentale de la réalité, n'est pas exprimable en parole humaine, et précisément en parole rationnelle. Si on ne peut rien dire de rationnel sur la réalité, c'est que la réalité elle-même n'est pas rationnelle. Comment est-ce qu'une réalité non rationnelle pourrait accoucher, entre guillemets, d'une humanité rationnelle ? Comment est-ce que nous, on peut en arriver à avoir un langage, que ce soit un langage parler ou un langage mathématique ou même la logique et tout le fondement de la science, en fait. Comment est-ce qu'on peut en arriver là, par la raison, si la réalité elle-même n'est pas rationnelle ? Donc, il y a peut-être une contradiction aussi là à explorer. Et surtout, comment est-ce qu'on peut enseigner quoi que ce soit à propos du Tao par des paroles ? Pourquoi écrire un livre ? Bon. Voilà. Est-ce que pour le bouddhisme, le brahmanisme et le taoïsme, ça vous va comme... Oui ? Ah. Ouais. Ouais. Alors, il y a. Ouais. Il y a deux choses là à voir. Il y a d'un côté la croyance, qui est, comme tu dis, le syncrétisme, donc mélange tout. Si la personne en face de nous mélange tout, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Et d'un autre côté, il y a la culture, qui peut être culture extrême-orientale. Et c'est deux choses qui peuvent nous apporter un élément de réponse. Pour la culture, souvent les syncrétismes et les cultures extrême-orientales sont des cultures où on apprend par les histoires. Donc là, plutôt que d'essayer d'exprimer, par exemple, pour un taoïste, l'enseignement ou la vision du monde biblique par des propositions logiques, en disant Dieu est trois personnes, mais c'est un seul Dieu, etc. Bon courage. On peut raconter des histoires, on peut parler des personnages bibliques, ce qu'ils ont fait, ce que Dieu a fait, on peut raconter des histoires, par exemple, des anecdotes dans l'évangile de Jean, où Jésus insiste bien pour dire qu'il est le seul chemin vers Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre, que ceux qui sont venus avant lui sont des brigands et des voleurs. Donc ça peut être une manière de dire, voilà ce que le texte dit, et tu peux le tourner comme tu veux, il n'y a pas plusieurs manières de l'interpréter. Une autre, pour la question du syncrétisme, les gens font souvent référence à l'histoire de l'éléphant et des aveugles. Ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Il y a. Oui, voilà. Voilà, il y a des aveugles dans une pièce et il y a un éléphant et ils s'approchent tous pour toucher l'éléphant. L'éléphant représente la réalité ultime. Et les aveugles, c'est les différentes religions. Et il y en a un qui touche la patte et qui dit: Ah, ben, un éléphant, c'est circulaire et c'est plutôt rugueux. L'autre, il touche la trompe, il dit: Ah non, c'est plutôt long et flexible. Puis il y en a un qui touche la défense et qui dit: Ah non, c'est plutôt dur et courbé, etc. Donc, ils ont tous une vision différente. Mais en fait, ils parlent de la même réalité. Alors, souvent, c'est ce que les gens vont vous dire pour illustrer cette vision un peu syncrétique, qu'on a tous une partie de la vérité, que finalement, tout se rejoint. Sauf que, pour raconter l'histoire, il faut avoir des yeux. C'est-à-dire que la personne qui raconte l'histoire, elle dit: Moi, j'ai des yeux, je suis en train de regarder les cinq aveugles, et ils sont en train de toucher le même éléphant. Moi, je sais, je peux affirmer, parce que moi, j'ai une vision globale de toute la réalité ultime, et je vois, j'ai une vision globale aussi de toutes les religions qui sont en train d'essayer de faire ça. Donc, la personne, sous couvert d'humilité, en disant on a tous une partie de la vérité, est en fait en train de se positionner dans l'histoire comme la personne qui a la connaissance absolue, qui a la connaissance transcendante sur toute la réalité, sur toutes les religions. Or, même en ayant étudié les religions pendant une vingtaine d'années, bon courage pour encore bien les comprendre et toutes les connaître. Donc ce type de positionnement où on dit tout se rejoint, personne n'a la vérité, se veut humble, mais en fait c'est extrêmement arrogant. C'est-à-dire moi j'ai la vérité et même tous les autres ont tort, mais moi j'ai compris ce que eux n'ont pas compris. D'une part, Jésus nous laisse pas la place pour ça, et puis d'autre part, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on prétend. On prétend être humble, on est en fait très arrogant. Donc on peut utiliser cette histoire à l'envers pour dire ça marche pas.
Du coup, si je récapitule, ça, par rapport à ce que tu as répondu sur le bouddhisme et sur l'hindouisme, en gros, l'idée, c'est déjà de comprendre nous-mêmes qu'est-ce que c'est le karma. Donc, du coup, ça nous aide déjà. Et de demander à la personne de nous expliquer. Du coup, ça serait un peu de la pousser à nous expliquer, du coup, sa compassion bouddhiste et nous, ensuite, de lui opposer notre amour chrétien et à travers l'amour chrétien, d'arriver à l'évangile et d'annoncer la croix, c'est ça, par exemple?
L'idée, c'est d'identifier la vision du monde de l'autre personne, de trouver un élément où il y a une tension, de souligner la tension, la contradiction interne ou la contradiction par rapport à la réalité. Et une fois qu'on a souligné ça, contraster avec le même élément dans notre vision du monde. Donc si vous prenez la justice pour les bouddhistes, la justice, par exemple le karma, la compassion, la réaction à la justice, on montre que finalement, ça crée plutôt un sentiment d'injustice, ça crée plutôt un encouragement à la misère des gens. Et ensuite, on souligne que dans le christianisme, à l'inverse, là où exceptionnellement un bouddhiste fera un effort pour aider quelqu'un, exceptionnellement un chrétien ne devra pas faire d'effort pour aider quelqu'un. Et donc ça, techniquement, ça devrait susciter une envie, susciter une envie de changer de vision du monde. Et après, on peut relier bien sûr la raison pourquoi est-ce qu'un chrétien devra toujours faire un effort ou quasiment toujours faire un effort, ça nous mène forcément à la croix. Tous les aspects qu'on peut aborder de la vision du monde chrétienne nous ramènent forcément à la croix ou à la création. Mais bon.
D'accord. Bah, c'était surtout ça que je voulais entendre.
Voilà.
Enfin, je vais dire. Merci. Non, mais parce que en fait, pour moi, c'était pas forcément concret en fait. Et enfin, on avait juste dit, bah, voilà, c'est quoi le karma, c'est quoi la justice, mais du coup, c'est en finalité, est-ce que quand on arrive devant, on lui parle de tout ça? Et j'arrivais pas forcément à voir comment on pouvait aborder derrière la croix et la...
Quelque chose que je m'étais dit que je dirais en fait en introduction et que j'ai oublié de dire, mais en fait ça va peut-être avoir beaucoup plus de sens maintenant que je le dis maintenant, c'est que le fondement de l'apologétique, c'est le caractère de Dieu. Le but de l'apologétique, c'est de défendre qui est Dieu. C'est ce qu'attaque le serpent dans le jardin d'Éden, ce qu'attaque les autres religions, ce qu'attaque les opposants de Jésus, ce qu'attaque encore les gens aujourd'hui quand ils rejettent Dieu, c'est le caractère de Dieu. La justice de Dieu, par exemple. Donc, quand on parle de karma, on fait forcément référence à la justice de Dieu. Pour nous, la justice de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus crucifié. Donc, ça, c'est un lien qu'on doit faire. chercher dans la vision du monde des autres, soit un des quatre points que j'ai évoqués, l'absolu, l'humain, la connaissance ou l'éthique, soit un des aspects du caractère de Dieu. Donc Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est absolu, il est souverain, ce genre de choses. Si vous parcourez la Bible avec, en cherchant ça, vous verrez que souvent, chaque livre biblique est orienté sur une caractéristique de Dieu qui est remise en question, et le prophète ou l'auteur qui défend essentiellement cette caractéristique. Bien, j'espère que vous n'êtes pas encore perdu, on va passer à l'évolution. Alors, l'évolution prouve tout, pas besoin de Dieu ou d'une religion. Qui est-ce qui veut répondre à ça ? Oui ? L'évolution est une religion. Et l'évolution n'a pas été prouvée scientifiquement ? Alors, dans le principe, tu n'as pas tort. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit forcément... Ça nous amène forcément rapidement au point qu'on veut aborder parce que tu es en train d'attaquer sa vision du monde en disant que c'est une religion. Étant donné que lui, il oppose, enfin lui ou elle, oppose évolution et religion, essayer de, même si c'est vrai, c'est souvent les gens qui disent ça, idolâtrent un peu la science ou l'évolution, c'est une attaque trop frontale. C'est-à-dire que... Et d'autant qu'en plus, tu peux te retrouver dans des débats. Je dis ça parce que j'ai déjà essayé. Et les gens nous disent, mais si, on a prouvé comment on arrivait à faire apparaître la vie dans un truc de pétri. Et puis, on a prouvé qu'il pouvait y avoir des trucs, des espèces qui changent jusqu'à ce qu'elles arrivent plus à se reproduire entre elles. Donc, c'est une espèce différente, etc. On risque, il se peut qu'on tombe sur quelqu'un qui réagisse bien à ce que tu dis, hein, mais... Généralement, moi j'ai plutôt l'expérience de gens qu'on rentre dans un débat et qui me disent « mais si, il y a cet article que j'ai lu récemment, etc. sur Internet » et bon, dans la rue, c'est pas toujours facile d'aller vérifier ou d'en débattre, d'autant que ça nous emmène sur le terrain de l'évolution ou du débat scientifique qui n'est pas celui qu'on maîtrise le mieux. À moins d'être un scientifique soi-même, auquel cas, lancez-vous, hein, y a pas de souci. Mais en fait, quand on nous dit « l'évolution prouve tout », pas besoin de Dieu ou d'une religion. Qu'est-ce qu'on est en train de dire au fond ? Quelle est l'idée qui se trouve derrière cette remarque ? Que Dieu n'existe pas, mais pourquoi ? Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, le caractère de Dieu, ou la caractéristique de Dieu, c'est un Dieu bouche-trou. D'ailleurs, vous mettez Dieu là où vous ne pouvez pas comprendre ou expliquer la réalité. C'est l'idée, on entend du tonnerre et on dit que c'est Zeus qui lance des éclairs parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais quand on se rend compte qu'en fait il y a des réactions physico-chimiques dans les nuages, on n'a plus besoin de croire en Dieu. Et forcément, si c'est ça notre idée de Dieu, Dieu va réduire au fur et à mesure que la science avance. Donc littéralement, la science va tuer Dieu. Et effectivement, ce genre de Dieu-là, il ne faut pas y croire. Ce genre de Dieu-là, c'est une superstition. Et donc, on peut reconnaître, effectivement, oui, ce genre de Dieu, si c'est comme ça que tu définis Dieu, moi, j'y crois pas, je trouve que c'est une superstition. Au contraire, moi, je suis pour la science, je trouve que c'est bien, il faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe autour de nous, etc. Mais c'est pas de ça qu'on parle, en fait. On parle de Jésus. On parle pas d'un Dieu, globalement, qui sert à pas comprendre les choses. Si les gens commencent avec ce genre de réponse où ils rejettent un peu le caractère personnel, finalement, le caractère objectif de Dieu, on peut parler de Jésus, parce que Jésus est quelqu'un qui a vraiment existé. On en parlera dans la troisième question, mais Jésus est quelqu'un qui a vraiment existé. On ne parle pas juste d'une vision du monde, on ne parle pas juste d'une foi personnelle, on parle d'une réalité objective. Jésus est venu à un moment donné de l'histoire, il a laissé des traces, il a transformé le monde. Et ça, on ne peut pas le nier. Donc, ça peut être une tactique pas pour déstabiliser la personne, mais pour en fait recentrer les choses sur ce dont on parle véritablement. Alors, au niveau de l'évolution, pour quand même dire qu'est-ce qu'on peut, il ne suffit pas juste de changer de sujet, changer de terrain, qu'est-ce qu'on peut dire en fait qui va montrer que l'évolution se contredit en interne ? T'as envie de lever la main. Je sens que t'as envie de lever la main. Vas-y. Donc, on a une feuille blanche et on crée quelque chose à partir de cette feuille blanche. En faisant référence à l'apparition de la vie, tu veux dire? D'accord, oui. Alors, l'apparition de la vie et l'évolution, ce n'est pas tout à fait la même chose. Même si, quand les gens disent évolution, généralement, ils pensent à la fois théorie du Big Bang, apparition de la vie et évolution. Ça nous emmène peut-être un peu trop loin. C'est pas une mauvaise idée. L'apparition de la vie est effectivement une chose que l'évolution n'explique pas. Mais il y a encore des gens qui vont te sortir si, on a trouvé, je sais plus quelle est la théorie que j'avais entendue, c'est sur le dos des cristaux que la vie est apparue. Il y a des gens qui vont dire si, on sait. Ça risque de nous emmener dans des débats de spécialistes. Mais pour quelqu'un qui ne saurait pas, ou en tout cas pour quelqu'un qui mélangerait les termes ou ferait des généralisations, ça peut être intéressant de dire bah, comment l'évolution explique l'apparition de la vie. Oui. Voilà, la personne est en train de dire littéralement, j'ai déjà ma religion. Alors, je sais que j'ai dit qu'il fallait pas dire que c'était une religion, mais globalement, c'est ce qu'il faut en comprendre. La personne est en train de dire, j'ai déjà ma vision du monde. Et elle est cohérente. Il n'y a pas de place pour ton Dieu, pour ton concept dans cette vision du monde. Donc, demandez à cette personne de vous l'exposer, puisqu'elle l'a et que c'est bien, c'est ficelé, tout marche. Donc, n'hésitez pas à dire à cette personne, bah, alors, ok, bah, explique-moi. Même si vous avez d'abord commencé par dire, c'est pas de ce Dieu-là que je parle, mais vas-y, explique-moi comment tout ce que prouve l'évolution et comment est apparue la vie, comment est apparue. L'univers, etc. Et c'est là qu'on ramène un peu la personne à se rendre compte que elle croit qu'elle sait, mais elle ne le sait pas comme ça. Il y a des livres, il y a des sites internet, il y a d'autres personnes qui en ont parlé, mais elle-même est obligée de leur faire confiance. Donc déjà, ça peut ramener la discussion sur un terrain un peu plus humble et un peu plus posé, où on dit oui, on fait référence à des gens qui ont l'autorité d'en parler. Oui? Alors, l'idée que l'évolution est vécue en gros par le fœtus, donc qui part d'une cellule et qui devient un être humain, et que donc l'apparition de la vie peut se faire de la même manière, ça me semble un peu étrange comme idée parce que ça arrive quand même dans un ventre humain. C'est un peu l'idée de l'œuf et de la poule, quoi. Donc, ouais. Disons que toutes les personnes qui essaieront de vous expliquer l'apparition de la vie, c'est un peu comme tous les chrétiens qui essaieront de vous expliquer la Trinité en vous disant « Mais non, mais c'est simple !» Globalement, c'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, ou qui ont l'impression de comprendre, mais qui ne comprennent pas. Moi, je ne comprends pas la Trinité. J'ai appris la manière d'exprimer les choses qui rend, à mon avis, compte justement de ce qu'on trouve dans la Bible. Mais ça nous dépasse. C'est pas quelque chose qui peut avoir un sens pour nous. C'est quelque chose qui peut éclairer notre compréhension du monde, et c'est pour ça que on peut savoir que c'est fiable, que c'est vrai. Mais c'est pas quelque chose qui, en soi, est compréhensible pour notre niveau. On est des créatures, on peut pas comprendre le Créateur. On peut le connaître, mais on peut pas le comprendre. Donc là, c'est la différence. On fait, enfin, sans comparer non plus. La complexité de l'apparition de la vie et la complexité de Dieu, parce que je pense que Dieu est quand même plus complexe que ça. Mais globalement, voilà, les gens qui veulent l'exprimer simplement ne pourront pas te l'expliquer. Ils peuvent te donner une illustration. Et ça, c'est un peu le problème avec ce que la personne t'a répondu, c'est que c'est une illustration. C'est pas un argument. Comme de dire, ben en fait, tu vois, c'est comme ça arrive bien, donc. Non, c'est une manière d'illustrer comment ça s'est passé, comment ça a pu se passer. Ça ne prouve pas que ça se soit passé comme ça. Donc voilà. Après, si vous étudiez un peu plus les questions de logique, de débat, ce qu'on fait beaucoup dans le monde anglo-saxon, malheureusement beaucoup moins en France, vous verrez qu'il faut toujours faire la différence entre une illustration et un argument. Une illustration n'est pas un argument. Et de la même chose pour nous, il faut qu'on emploie bien sûr des illustrations pour rendre notre explication plus vivante, plus compréhensible, mais en soi, c'est pas un argument. Alors, une des choses, moi, que je trouve à redire sur l'évolution, c'est que l'évolution ne produit pas de vérité. Le souci de l'évolution, c'est que ça produit juste de la survie. Globalement, le principe de l'évolution, c'est que c'est la sélection du plus adapté. Ce qui fait que, admettons, vous êtes un homme préhistorique dans la savane, et il y a un lion devant vous. Et vous vous dites, ce lion va me tuer, et donc il faut que je cours dans l'autre sens pour survivre. Est-ce que vous survivez? Oui, parce que vous avez cru la bonne chose. Maintenant, imaginez, vous êtes un homme d'une autre tribu qui voit le même lion et qui se dit, oh, le gros chat, j'ai envie de jouer avec lui. Et je sais que la meilleure manière de jouer avec lui, c'est de courir dans l'autre sens pour pas qu'il puisse m'attraper. Est-ce que vous survivez? Ben oui, aussi. Et pourtant, vous avez deux croyances complètement différentes. Donc l'évolution permet juste de survivre, va juste sélectionner la croyance qui va permettre de survivre, et non pas la croyance qui va être vraie. Donc on ne peut même pas prétendre arriver à un fondement de vérité scientifique, même ne serait-ce que vérité scientifique, avec l'évolution. Si l'évolution est vraiment le facteur déterminant de la vie et du développement de toute notre société, de l'humanité, etc., on ne peut pas rendre compte de la vérité. Comment est-ce qu'on arrive à la vérité? Comment ça se fait que, malgré tout, l'humanité en arrive à des croyances, de la connaissance qui soit vraie sur le monde? Ce qui remet d'ailleurs en cause toute la question de la science, au passage. Et de même, si en fait tout évolue et tout s'adapte, la pensée humaine aussi s'adapte à son environnement. Or, depuis le début de la science, l'environnement a changé. Et donc notre pensée s'y est adaptée. Et même la méthode scientifique entre, par exemple, les Grecs antiques et aujourd'hui, la méthode scientifique a changé. Donc est-ce que ça veut dire que ça remet en question toute la science? Est-ce que finalement la science ne donne aucune vérité, mais donne juste des croyances adaptées au moment? Est-ce que les lois de la physique changent, du coup, notre compréhension des lois de la physique change? Donc est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais rien dire de définitif? Est-ce qu'on ne peut jamais rien savoir finalement en science? Est-ce qu'on ne peut jamais rien prouver? Donc c'est un peu le danger de l'évolution, moi. Le rapport à la vérité, à mon avis, c'est un des problèmes essentiels de l'évolution. Il y a d'autres problèmes, par exemple, si la vie est un hasard, si elle est apparue par hasard, quelle valeur elle a? Comment est-ce qu'on peut défendre qu'il faut laisser des humains en vie si de toute façon ils ne sont que le produit du hasard? Où est la dignité humaine, la Déclaration universelle des droits de l'homme? Qu'est-ce que vous en faites? C'est juste un consensus, et demain ça peut changer, et on peut aller massacrer joyeusement son voisin. Alors que pour nous, le fondement de l'univers tout entier est personnel. Le fondement de la création, le fondement de l'humanité est une personne. C'est un Dieu personnel. Et donc c'est ça qui donne la valeur à la vie humaine. D'ailleurs, si vous regardez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle s'inspire directement de la vision du monde biblique. Elle essaye de s'en séparer en partie, mais globalement, c'est une déclaration et ce n'est pas un consensus. Ce n'est pas un décret. C'est pas l'autorité n'est pas humaine. On n'appelle pas ça une loi, on appelle ça une déclaration. Et le principe principe juridique d'une déclaration, c'est qu'on reconnaît quelque chose, on reconnaît un état de fait. Donc en fait, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1945, ou 47, je sais plus, je crois que c'est 45, quelque chose donc qui inspire, qui est censé inspirer toutes les lois internationales, sont une reconnaissance d'un état de fait. On est en train de dire, il y a une loi naturelle. On refuse de dire d'où elle vient, on refuse de se prononcer sur Dieu, mais globalement, enfin, la plupart des pays qui sont signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaissent que quelque part, il y a une morale qui est inscrite dans l'univers, et que cette morale est quand même largement tirée de la Bible. Après, bon, les gens en font ce qu'ils veulent, hein, ils ont le droit d'être incohérents, mais voilà. Des questions sur l'évolution qui prouve tout, pas besoin de religion. Des trucs que j'ai dit, vous n'avez pas compris. Des insultes. Non. Bon, alors on va pouvoir peut-être passer à la troisième question. On est dans les temps? Le fondement personnel, c'est-à-dire que le lien entre un Dieu personnel et la valeur de la vie humaine, c'est qu'on a été fait à l'image de Dieu. On est l'image de Dieu. Donc toute attaque contre l'humain, c'est une attaque contre Dieu en réalité. C'est une révolte contre Dieu. Tout le problème de la vie humaine, c'est un problème de rébellion contre ce Dieu-là. Et donc, qu'a fait Dieu pour régler ce problème-là? Il a donné son fils. Son fils qui est aussi l'image parfaite de Dieu. Une des choses importantes quand vous envisagez la vision du monde de quelqu'un, surtout parce que bon là on a pas mal exploré les questions de science et de religion étrangère, il y a les questions de philosophie aussi. Une philosophie moderne qui est très répandue, c'est le postmodernisme. Alors vous entendez probablement ce mot un peu de partout. C'est pas toujours facile à définir, mais il y a si vous voulez, une manière de voir les choses plus simplement, il faut voir comme un duel entre deux valeurs. Globalement, toute l'histoire de la philosophie, c'est toujours un duel entre deux valeurs. Il n'y a que le christianisme qui propose une suite de trois temps. Tout le reste, c'est toujours en deux temps, deux valeurs. Et le problème de ces deux valeurs, c'est que c'est un peu un duel sans fin, où c'est comme un pendule, ça n'arrête pas de passer de l'un à l'autre. Donc, à l'époque précédente, l'époque moderne, on a érigé la liberté d'un côté, la nature de l'autre. Et tout est allé du côté de la nature. La science, l'analyse de la nature, on allait enfin comprendre le monde. On a décidé que la liberté, finalement, n'avait pas d'importance. Donc toute l'entreprise de la science et de l'époque moderne, ça a été d'utiliser les moyens humains, la raison humaine, pour catégoriser toutes les choses, pour tout comprendre, pour tout maîtriser. Et au final, on en vient à plus comprendre ce que c'est que l'âme. Plus comprendre ce que c'est que la personne humaine. On analyse le cerveau, on s'attendait à y trouver quelque chose et finalement on se rend compte que c'est que des processus chimiques. On arrive avec la psychologie à expliquer les réactions des gens. On se dit si on maîtrise les variables de base, on peut prédire ce qui va se passer. C'est juste qu'on n'est pas capable de maîtriser toutes les variables et pas capable de les calculer. Mais globalement, on en vient à imaginer que si on avait un ordinateur suffisamment puissant, on pourrait tout prédire de l'avenir. Et on se dit, tout est prédéterminé. On ne sait plus où trouver la liberté humaine. On la garde parce que c'est quand même pratique et ça rend compte de la complexité du monde. On sait qu'on est libre. Mais quand on essaie de l'expliquer par une équation, on n'y arrive pas. On est passé complètement du côté de la nature. Et là, époque postmoderne, hop, le pendule passe de l'autre côté et on tombe dans la liberté absolue. Récemment, vous avez probablement suivi un peu l'actualité au niveau du pays sur les débats sur les droits, les libertés. On rejette complètement la science, on rejette complètement l'idée que la science peut tout expliquer, on rejette même la raison. On dit non, non, mais l'important c'est l'émotion, l'important c'est d'être soi-même, c'est la liberté d'être soi, c'est la liberté de religion, c'est la liberté de pratiquer comme on veut, c'est la liberté d'être tous égaux, d'avoir les mêmes droits, etc. Même si ça ne nous concerne pas du tout, on veut tous les mêmes droits. Donc c'est un peu on passe d'une idole à une autre, et peut-être dans 300, 400 ans, on repassera du côté de la nature, ou peut-être qu'il y aura un nouveau duel entre deux valeurs. Ça, c'est la manière dont réfléchissent des gens qui sont tombés dans l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il y a toujours, entre guillemets, une chose qu'ils vont élever au rang d'absolu et qui, comme elle ne peut pas subsister par elle-même, va appeler son inverse et ça ne va pas arrêter de passer de l'un à l'autre. Du point de vue biblique, nous, on sait quel est l'absolu, c'est Dieu, et du coup, notre vision du monde va être déterminée par trois choses: la création, la chute et la rédemption. C'est la manière dont nous, on va envisager la vision du monde. Donc, quand on parle de science, par exemple, quand on parle de l'état du monde tel qu'il est pour expliquer le bien, le mal, la justice, on repense à la création, la manière dont Dieu a créé les choses, mais on sait que tout n'est pas parfait, tout n'est pas resté comme ça a été créé, parce qu'il y a eu la chute. Et souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre la complexité de notre discours parce qu'ils n'ont pas ce raisonnement en trois temps, où les choses peuvent être créées d'une certaine manière, avec une bonne intention bienveillante derrière, et puis tout d'un coup, devenir mauvaise. Et du coup, si on arrive à bien expliquer ça, on pourra aussi montrer qu'on peut réparer les choses et qu'elles peuvent être restaurées, qu'elles peuvent être rachetées par Christ. Donc ça, c'est une manière, dans toutes les visions du monde, de toujours en revenir à Christ, de parler de la rédemption. Donc de se rappeler création, chute, rédemption. C'est le motif de base. Voilà. Je vais passer à la troisième question. Si tout le monde a bien suivi ou vous voulez que je répète une partie ou c'était assez clair. Il y a des gens qui s'endorment, non? Bon. Troisième question. Comment prouver que Jésus est ressuscité? Allez-y, donnez tout, là. Oui? Le problème du tombeau vide. Développe. Comment expliquer que la tombe était vide? C'est ça? Ok. Comment tu sais que la tombe était vide? Donc les Juifs n'ont pas réussi à résoudre la question. Mais toi-même, tu sais ça parce qu'en fait, c'est marqué dans la Bible. Donc c'est bien gentil, mais moi, j'y crois pas à ta Bible. Exactement, c'est ça. Païen. Oui? Parce que c'est le Vatican qui les a volés. Le Vatican cache tout. Non, pourquoi les historiens n'ont pas réussi à retrouver les ossements de Jésus? Les archéologues, ils n'ont pas forcément non plus retrouvé les ossements du roi David. Est-ce que ça veut dire que le roi David est ressuscité? Que quelqu'un aurait... Parce que le tombeau était vide, oui. Comment on le sait? Parce que les Juifs n'ont pas pu le contrer à l'époque, d'accord. On le sait aussi parce que c'est marqué dans la Bible, mais moi je ne crois pas à la Bible, donc qu'est-ce qu'on lui dit? Les archéologues n'ont pas réussi à le trouver. Il y a plein d'ossements qui n'ont pas été retrouvés. Et on peut se dire peut-être que pour Jésus, on aurait dû particulièrement les retrouver, vu que dans certaines formes de christianisme, ou dans beaucoup de formes de religion en tout cas, on vénère les reliques. Donc ça aurait énormément de valeur. Et pourtant... on pourrait dire aussi oui, mais enfin, il y a quelqu'un qui les a cachés, qui les a détruits, qui voilà. Bon, on peut avoir plein de théories là-dessus. Donc, vous savez quand même que la résurrection c'est le centre de notre foi. Donc, si vous n'êtes pas capable de le démontrer, vous êtes un peu mal barré. Oui. Un témoignage. Donc, l'avantage du témoignage, c'est que la personne ne peut pas nier que c'est vrai, d'une part, puisque c'est ton témoignage. Donc, a priori, c'est toi qui maîtrises. Et en plus, ça peut donner envie. Et c'est un peu le cas souvent, c'est que pour ce qui est de la résurrection, les gens vont aborder ça comme quelque chose de un état de fait. C'est, de toute façon, on sait très bien que les gens ne ressuscitent pas. Donc, me dire qu'un mec a 2000 ans à ressusciter, bon courage. Il faut, comme tu dis, vraiment les amener à avoir envie que ce soit vrai. Un témoignage peut être une très bonne accroche pour dire, pour faire le lien entre la mort et la résurrection de Jésus et ma vie aujourd'hui. Et l'espoir aussi qu'on a de la résurrection à venir. Oui ? Ça, c'est un point qui est un peu plus facile à prouver au niveau historique, en fait. Le développement de l'Église, finalement, malgré la persécution. Oui. D'ailleurs, si jamais vous avez envie d'étudier un peu la notion de martyr, il y a trois religions qui sont prosélytes, il y a trois religions qui essayent de faire des convertis. C'est le christianisme, l'islam et le bouddhisme. C'est un peu les trois religions missionnaires dans le monde. Et du coup, c'est les trois religions où il y a une notion de martyr. Sauf qu'en fait, si vous étudiez les choses, vous verrez que la notion de martyr est très différente dans ces trois religions. Mais bon, je ne vais pas m'égarer là-dedans, je vous donne juste la piste et puis on pourra en reparler après si vous voulez. Globalement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, quand la personne nous demande de prouver que Jésus est ressuscité, une fois qu'on a dépassé la question de leur donner envie, se fonder sur quatre faits historiques. Alors, on peut pas, c'est de l'histoire, on ne peut pas les prouver d'une manière scientifique, dans le sens de la méthodologie scientifique où on peut répéter, c'est de l'histoire. Donc il faut qu'on se cantonne quelque part à de la probabilité. Mais une fois qu'on a établi ces quatre faits, la seule théorie en fait qui est valide, c'est celle de la résurrection de Jésus. Donc les quatre faits, c'est 1. Jésus est mort par crucifixion. Ça, c'est dit dans la Bible. Et je vais revenir à la fin de ces quatre points, mais on peut facilement démontrer que la Bible est un document historique fiable. 2. Le tombeau a été retrouvé vide. Donc ça, c'était le premier point qui avait été évoqué. Donc Jésus est mort par crucifixion. 2. Son tombeau a été retrouvé vide. 3. Ses disciples croyaient sincèrement qu'il était ressuscité. Et 4. L'Église s'est établie et elle s'est développée. Et d'ailleurs, elle s'est établie et développée en mettant énormément d'emphase sur la résurrection. C'est-à-dire que la croyance en la résurrection et les conséquences que ça avait dans la manière dont les premiers chrétiens vivaient leur foi étaient vraiment quelque chose d'essentiel à la foi chrétienne. Donc Jésus est mort par crucifixion, son tombeau a été retrouvé vide, ses disciples croyaient sincèrement qu'il a été ressuscité, et l'Église s'est établie et développée. Est-ce qu'on peut projeter le document qui est sur le bureau, l'historiographie comparée? C'est un document qui est utile. On ne l'a pas toujours sur soi, forcément, mais si on l'a sur son ordinateur, on peut facilement l'envoyer à des gens et ça démontre en quelques instants que la Bible est un document fiable. Donc, l'idée, c'est que on a pris une dizaine de documents antiques qui sont soit aussi vieux, soit plus vieux que la Bible, avec leurs auteurs, et on a mis en jaune, le rond jaune, ça représente le nombre de copies qui ont été retrouvées, le nombre de copies originales, de copies du document au fur et à mesure des siècles. Donc par exemple, on voit pour le Nouveau Testament, on a 24 000 copies qui existent aujourd'hui du Nouveau Testament. Pour les écrits de Platon, qui quand même sont très importants au niveau philosophique, on en a 7. Donc la grosseur du point jaune, c'est le nombre de copies existantes aujourd'hui de ces auteurs antiques. Ensuite, le trait rouge, c'est le temps qui a passé entre le moment où l'auteur a écrit son texte et la copie la plus ancienne dont on dispose. Donc là, vous voyez qu'il y a des distances extrêmement longues pour la plupart des textes. Celui qui se débrouille le mieux, finalement, c'est Homère. Il y a 643 copies. Et entre le moment où il a écrit son texte et la plus ancienne copie qui existe encore aujourd'hui, il y a 500 ans qui se sont passés. Pardon? Non, la plus ancienne. Non, oui, par exemple. C'est-à-dire que il a écrit son truc, et puis 500 ans plus tard, il y a une copie qui a été faite à un moment. Enfin, il y a plein de copies qui ont été faites, mais il n'y a qu'à partir de 500 ans plus tard qu'on dispose de ces copies-là. Donc il y a 500 ans qui se sont passés, et on n'a pas les copies originales. Donc on ne peut pas prouver que pendant ces 500 ans, il n'y a pas eu de modifications, de changements ou autres. Et pourtant, tous ces textes-là, par exemple les textes sur la vie de César, Suétone aussi, ou Tacite, qui sont des historiens, ce sont des documents qui sont utilisés pour vous enseigner l'histoire antique. Ce sont des choses enseignées dans les universités même. Et il me semble, faudra demander confirmation à notre ami philosophe, le président d'Apollos, j'ai oublié son nom. Non, c'est pas Charles, c'est Alexis, voilà. Alexis Masson. Il m'avait dit, il me semble, que pour Platon, il y avait un débat qui existait sur un passage dans toute son œuvre, alors qu'on a on a plein de livres de lui. Donc là, on voit clairement que le document où il y a le plus de copies et où il y a la moindre le moins de temps possible qui s'est passé entre le moment où ça a été rédigé et le moment où on a les, enfin, et les plus anciennes copies dont on dispose, est minimum. Donc, si vous le voulez, je pourrais le. Bah, de toute façon, il est là. Donc, si vous voulez le récupérer, n'hésitez pas à le récupérer sur l'ordinateur. Pour moi, c'est une bonne infographie qui montre que si on veut comparer les textes de l'Antiquité, la Bible est clairement l'un des plus fiables qu'on a. Oui. Alors, bonne question. Je travaille sur une infographie, alors qui ne sera pas exactement similaire parce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, mais une infographie qui essaye de faire la même chose pour la plupart des textes des grandes religions, donc l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam et le judéo-christianisme. Le problème pour la plupart des autres religions, c'est qu'il n'y a pas la même approche historique. C'est-à-dire que on considère, on a une, soit dans les religions d'Extrême-Orient, on considère que c'est pas l'écrit qui est important, qu'à la limite, ce qui nous parvient, si ça éveille en nous quelque chose, si ça nous révèle quelque chose et qu'on le ressent, et que, enfin, c'est un peu le témoignage par exposition directe, c'est ça qui est notre expérience qui va nous prouver que c'est vrai finalement. Donc c'est pas si important que ça pour eux. Pour les musulmans, c'est très difficile parce que c'est très polémique. Il me semble, des spécialistes de la question avec lesquels j'ai discuté, que le Coran ne tient absolument pas au niveau historiographique, alors que au niveau de la Bible, il y a beaucoup de débats. Il y a deux camps très tranchés sur la Bible, à quelle époque elle a été rédigée pour chacun des livres, etc. En tout cas, le camp, on va dire, conservateur, qui considère que les évangiles ont été écrits dans le premier siècle, que les livres de l'Ancien Testament ont été écrits bien par les auteurs qu'on leur attribue aujourd'hui, etc., se défend très bien. C'est-à-dire que c'est pas la seule théorie, il y a deux théories, mais qui reposent plus sur une approche globale des choses. Mais en tout cas, au niveau des données linguistiques, au niveau des données archéologiques, la Bible se défend très bien. Alors que c'est pas du tout le cas dans les autres religions. Alors, au niveau de l'Ancien Testament, le gros avantage qu'on a, c'est les découvertes en 1947 des grottes de Qumran. Donc les grottes de Qumran sont des grottes en Israël, où on a en Palestine, où on a retrouvé plus d'un millier, je crois, de rouleaux, qui, pour les plus anciens, datent de 200 avant Jésus-Christ, et où il y avait des livres entiers de l'Ancien Testament. Ceux dont on disposait avant Qumran dataient de 1000 après Jésus-Christ. Donc on a fait un bond en arrière de 1200 ans et on s'est rendu compte que la conservation des textes était exemplaire. Je crois que c'est 95%. Ça dépend des textes, ça va de 95 à 99% de conservation, enfin d'exactitude dans la reproduction des textes entre moins 200 avant Jésus-Christ, enfin moins 200 et plus 1000. Donc c'est en fait c'est un bon témoignage. Ceci dit, on parle que du Nouveau Testament sur ce document parce qu'en fait c'est le Nouveau Testament qui cite et qui confirme finalement l'autorité de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que les citations qui sont faites dans le Nouveau Testament de l'Ancien Testament nous disent que les auteurs bibliques à l'époque les reconnaissent comme inspirés. Donc si on peut fiabiliser, on peut rendre compte de la fiabilité du Nouveau Testament, indirectement, on peut rendre compte de la fiabilité de l'Ancien Testament. Voilà. Par ailleurs, on peut aussi considérer que le Nouveau Testament, d'un point de vue apologétique en tout cas, se suffit à lui-même. Après, d'un point de vue chrétien, bien sûr, il faut considérer l'ensemble de la Bible. Mais voilà. Oui. Ah, ça c'est une bonne question. Ça serait bien aussi, oui, d'avoir un peu le détail des époques pour savoir si on a une copie d'époque et puis. Ce sont les copies existantes aujourd'hui depuis l'époque où ça a été écrit. Donc, globalement, l'époque où ça a été rédigé pour. Platon, je crois que c'est 5e siècle. Il me semble que pour l'ensemble, peut-être sauf Homère qui doit être le 7e siècle, c'est globalement des auteurs qui ont écrit entre 700 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ. Et les copies existantes, c'est celles dont dont on a encore qu'on possède encore aujourd'hui. C'est celles qui ont survécu. Alors après, ça ne nous dit pas forcément à chaque fois de quelle époque elles sont, mais clairement, celles du Nouveau Testament, elles datent depuis, depuis le... Ben, clairement, puis on voit le point central, c'est le moment des événements. Donc on voit entre 40 et 70 ans, donc le moment des événements, c'est pour le Nouveau Testament, globalement 0 à 30 après Jésus-Christ. Il me semble que les premiers textes ont dû être écrits vers peut-être 52, il me semble que c'est le plus ancien, 52 peut-être après Jésus-Christ. Donc peut-être les copies les plus anciennes datent de 100, ouais. Je suis pas spécialiste. Il y en a, ouais, on a des fragments après qui datent beaucoup plus proches des événements, mais pour des copies entières, faut attendre, ouais, 100 après Jésus-Christ. Ceci dit, il n'y a pas que les copies qui sont importantes. Ça se voit aussi pour l'Ancien Testament. Il y a la manière d'écrire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, si vous voulez dire, je vais écrire comme au 15e siècle, c'est relativement facile d'aller falsifier un document en écrivant comme au 15e siècle. À l'époque, c'était pas du tout quelque chose auquel ils avaient accès. Déjà, le langage évoluait beaucoup plus lentement. Et puis surtout, ils savaient pas. Déjà, ils n'avaient pas la notion de falsifier les textes. Et quand bien même, ils avaient la notion de falsifier les textes, ils le faisaient très mal parce qu'ils utilisaient quand même des mots, des formules de leur époque. Ça, on le voit pour tous les textes qui ont été écrits entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ou des textes qui ont été écrits après le Nouveau Testament, où ils disent, par exemple, c'est les Actes de Jean, l'Évangile de Thomas, ce genre de trucs, où on voit en fait qu'ils disent ça a été écrit par quelqu'un au 1er siècle, sauf que le style ne correspond pas du tout au 1er siècle, ça correspond au 2e ou 3e siècle, donc on sait que ce n'est pas Thomas qui l'a écrit. Donc ça, c'est aussi un facteur à prendre en compte. Donc ça, c'est pour la fiabilité de la Bible, et pour dire que finalement, les quatre faits historiques, donc Jésus est mort par crucifixion, son tombeau a été retrouvé vide, ses disciples croyaient sincèrement qu'il était ressuscité et l'Église s'est établie et développée, sont fiables, non seulement parce qu'on les retrouve dans la Bible, et que la Bible est fiable, en tout cas le Nouveau Testament, mais aussi parce qu'on les retrouve en dehors de la Bible. Bon, je vais pas vous faire le détail, mais on a des mentions de Jésus dans 3 ou 4 textes antiques sur l'histoire. Le tombeau vide, je pense pas qu'on ait de témoignages particuliers, à part dans les pères de l'Église, enfin les premiers écrits chrétiens. Que ses disciples croyaient sincèrement qu'il est ressuscité, ça on le sait parce que l'histoire de l'Église nous enseigne qu'ils sont tous morts en martyrs. Or, on ne meurt pas pour quelque chose qu'on sait être faux. En général, c'est pas un argument béton, mais bon, c'est quand même un très fort argument. Et l'Église s'est établie et développée, ça, il suffit de regarder l'histoire. Alors, quelles sont les théories qu'on peut évoquer pour expliquer ces quatre faits? Un, on l'a déjà évoqué, les disciples ont volé le corps. Ils ont voulu faire croire à la résurrection. Le problème, c'est que la tombe était gardée. Donc, les gardes, faudrait qu'ils se soient endormis. C'était les gardes romains. C'est un peu comme, je sais pas, le FBI aujourd'hui. C'est pas le genre de personne ou on va dire les RG, les renseignements généraux, pas le genre de personnes qui s'endorment quand on leur a demandé de garder un tombeau, d'autant qu'ils n'ont pas été punis. C'est quand même bizarre. Normalement, quand on vous demande de garder un tombeau dans l'armée romaine et que vous faillissez à votre mission, ça pouvait aller jusqu'à une condamnation à mort. Donc, en général, on le faisait sérieusement et on remarque que les gardes n'ont pas été punis pour le vol du corps, même si c'est quelque chose que les Juifs ont évoqué. Oui ? Parce qu'en fait, ce n'est pas mentionné. Oui, ils vont les payer pour pas qu'ils le disent aux autres, mais en fait, je veux dire, dans la Bible, ce n'est pas mentionné qu'ils ont été punis. C'est mentionné, donc, en fait, les chefs juifs et les Romains ont laissé passer l'affaire, qu'ils ne sont pas punis comme s'il y avait vraiment eu un vol de corps. Ils savent que le vol de corps n'est pas arrivé. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est que, comme tu l'avais mentionné, l'Église juive, enfin les assemblées juives, les chefs juifs, et même le gouvernement n'a pas réussi à prouver que le corps avait été volé. Ça a été leur théorie dès le départ, mais ils n'ont pas réussi à le prouver eux-mêmes. Malgré tout, le mouvement a continué de croître. Ce serait bizarre pour les disciples de toucher un corps mort. Dans la culture juive, toucher un cadavre, c'est très mauvais, c'est un sacrilège. Déjà déterrer Jésus alors que c'était leur chef, c'était quelqu'un qu'ils honoraient, qui a été enterré avec les honneurs, puisque c'est Joseph d'Arimathée qui est venu, il a été recouvert de, je crois, 40 kilos d'épices, enfin de parfums, etc. Donc c'était, et puis il avait une tombe à lui, il n'a pas été jeté dans une fosse, donc c'était quelque chose vraiment de l'honneur. Il s'attendait pas à ce que Jésus ressuscite. Il est enterré avec les honneurs, et on imagine que ses disciples vont commettre le sacrilège d'aller le déterrer, de toucher un cadavre, donc de se profaner. Surtout qu'il y avait une pierre énorme devant la tombe, donc il y avait un sceau en plus, et quiconque brisait ce sceau était passible de mort. Enfin bref, ça tient pas comme motif. Et puis, comme je disais, il y a le témoignage jusqu'à la mort. Tous les apôtres sont morts en martyrs pour le témoignage qu'ils apportaient de la résurrection de Jésus. Si on a fait semblant que quelqu'un est ressuscité, on essaie de s'en tirer pour de l'argent ou on essaie de s'en tirer pour la gloire, mais on va pas jusqu'à mourir pour témoigner de ça. Deuxième théorie, les femmes se sont trompées de tombe. Ben oui, les pauvres, c'est des femmes. Elles étaient complètement bouleversées et elles sont allées à la mauvaise tombe. Et donc, quand elles ont vu que la tombe était ouverte, elles ont dit « Ah, il est ressuscité !» Rigolez pas, hein, c'est une théorie officielle, enfin, qui se veut sérieuse, qui date de 1907. Alors, le problème, bien sûr, c'est que est-ce que Pierre et Jean aussi se sont trompés de tombe? Pourquoi les chefs juifs n'ont pas dit non, non, mais la bonne tombe, elle est là, tout bêtement. Ça n'explique pas les apparitions. Et quand bien même, on voit déjà que en Jean et en Luc, au chapitre 20, en Jean 20 et en Luc 24, que la tombe vide à elle seule ne suffit pas à convaincre les disciples que Jésus est ressuscité. Donc quand bien même, cette théorie expliquerait juste la tombe vide, mais n'expliquerait pas le reste. Troisième théorie, Jésus était seulement évanoui. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le Coran, dans la sourate numéro 4. Ou bien c'est un sosie qui est mort à sa place. Ou bien c'est un sosie qui est venu faire croire qu'il était Jésus ressuscité. C'était juste le jardinier, mais vous vous rendez compte, les femmes et puis les hommes, ils étaient tous là, tellement attristés. Ils avaient tellement envie que leur Seigneur ressuscite que du coup, ils ont pris le jardinier, ils ont dit, c'est toi notre Seigneur. Et bon, lui, il a laissé courir hein, parce que ça avait tellement bien marché pour Jésus qu'il s'est dit, ouais, je veux être le mec qui vient de se faire crucifier. Donc ça, c'est une théorie qui est un peu plus ancienne. Aujourd'hui, plus personne ne la prend au sérieux. C'est-à-dire que ce genre de truc que vous pouvez entendre dans la rue, dans le monde universitaire, personne, aucun scientifique, aucun archéologue, aucun historien qui se respecte, ne la promeut aujourd'hui. Et quand je dis aucune personne qui se respecte, ça fait bien sûr, parce qu'il n'y a pas de preuve, ça n'a pas de sens. En fait, ce qui se passe, c'est que les centurions romains étaient experts en mise à mort. Je veux dire, les exécutions romaines, c'était quand même quelque chose qui faisait beaucoup. Ils étaient responsables, c'est-à-dire que si eux ne tuaient pas la personne qui était censée tuer, c'est eux qui se faisaient tuer à la place. Donc ils ont vérifié l'identité et la mort. Il y a même un centurion qui est allé sur place vérifier que Jésus était bien mort et pas seulement évanoui, que c'était bien Jésus, etc. Je pense que à l'époque, a priori, quand on envoyait quelqu'un faire la chose, on se fiait à sa parole. Je ne sais pas si quelqu'un a vérifié. Après, il y en a qui disent oui, mais en fait, c'est Joseph. Il avait essayé de faire en sorte que Jésus tombe dans le coma en lui mettant une sorte de poison dans le vinaigre qui lui a tendu. Mais au final, après, le centurion, il est venu. Parce qu'en fait, il n'y a personne pour vérifier que le centurion a bien dit la vérité. Mais le centurion sur place a plongé quand même sa lance dans le côté de Jésus. Il est sorti de l'eau et du sang. Bon, a priori, Jésus était mort. Donc il y en a qui disent, ah oui, donc Joseph a dit, mince, il a vraiment tué. Bon, ben maintenant je vais voler le corps et puis on va faire croire qu'il est ressuscité. Je vais demander à mon beau-frère de mettre une barbe et tout ça. Non, enfin, il y a rien de sérieux. On peut être sûr qu'en tout cas, du point de vue de l'armée romaine, Jésus était mort. C'était bien Jésus et qu'il était bien mort. Ensuite, si on dit malgré tout, non, non, mais ça se trouve, il était juste dans le coma et puis il est ressuscité. Pardon? Oui, voilà. C'est des, ça se trouve. Il n'y a pas de preuve en fait. C'est des théories, mais c'est important de leur montrer que leur théorie ne peut pas être, valide. Imaginez que vous avez été fouetté, que vous avez été battu, que vous avez été crucifié, que vous êtes fait transpercer le côté. Et malgré tout, après 70 heures dans une tombe froide avec 40 kilos d'épices sur la tronche, vous vous réveillez, vous arrivez à sortir de votre tombeau en poussant la pierre. Si ça c'est votre théorie, j'ai envie de dire, vous croyez en quelque chose d'encore plus extraordinaire que la résurrection, quoi. C'est vraiment ça votre théorie. Et à la limite, vous avez plus de foi que moi, quoi. Moi, je dis juste c'est Dieu qui l'a ressuscité, mais vous carrément, c'est Jésus est véritablement surhumain, quoi. Donc, allez-y, convertissez-vous, quoi. Pour tout ce qui est la question du coup du frère de Jésus ou de son frère jumeau, d'un sosie ou d'un imposteur qui se serait fait passer pour Jésus, le problème c'est que les apôtres reconnaissent Jésus au bout d'un moment après la résurrection, et encore une fois, ils meurent pour cette croyance en la résurrection. Donc s'ils avaient un doute, s'ils n'étaient pas sûrs, je ne pense pas qu'ils iraient jusqu'à aller à l'autre bout du monde. Il y en a qui sont allés jusqu'en Inde pour se faire crucifier. Enfin, pas pour se faire crucifier, ils ont fini crucifiés. Mais on ne choisit pas ce genre de vie si on n'est pas sûr, si on a un doute, si on se dit « mais t'es vraiment sûr que c'est Jésus ?» Je ne sais pas, bon ok, on y va, mais on remet en question les choses. Donc encore une fois, ça expliquerait peut-être les événements sur le moment, ça n'expliquerait pas l'expansion de l'Église. Encore une fois, l'Église a commencé et elle a explosé littéralement à Jérusalem, la ville où Jésus avait été crucifié. Tout le monde avait vu Jésus crucifié, tout le monde avait suivi le passage de Jésus dans les rues de Jérusalem où il avait porté sa croix, tout le monde l'avait vu crucifié, tout le monde l'avait vu mort. Et il y a énormément de foules qui l'ont vu ressuscité. Donc l'idée que, ouais, mais en fait, ce n'était pas tout à fait lui, en fait, ça n'aurait pas tenu. Quelqu'un aurait dénoncé, ne serait-ce que les Juifs, pour commencer, les chefs juifs, ne serait-ce que les Romains, les opposants, même au sein du christianisme, qui auraient essayé de tirer la couverture à eux, enfin... Non, là les choses ont explosé, les gens étaient convaincus, ils ont changé radicalement et ça s'est répandu dans le monde entier. C'est difficile de l'expliquer avec ce genre de théorie. Quatrième théorie, c'était des hallucinations. Ou alors c'était des visions et les gens ont confondu, après c'est devenu des légendes, etc. Voilà, des hallucinations collectives. Alors pour les hallucinations, faut vraiment ne pas savoir comment fonctionnent des hallucinations pour penser ça. Alors moi je sais comment fonctionnent les hallucinations. Parce que j'ai étudié, pas parce que j'en ai. Quoique. C'est... Généralement, c'est pour des hallucinations collectives, il faut que ce soit le même genre de personne, qui est le même genre de personnalité. Or, les témoignages qu'on a concernent plein de personnalités très différentes. De même, c'est pas une hallucination à un moment, mais ça arrive sur plusieurs épisodes avec des intervalles de temps assez éloignés les uns des autres. Et surtout, en général, quand on a une hallucination, il se passe des choses auxquelles on s'attend. Là, aucun des disciples, aucun des apôtres ne s'attendait à la résurrection. Pourtant, Jésus leur avait bien dit clairement, plusieurs fois, mais c'est que après la résurrection qu'ils ont fait la connexion. C'est que après coup qu'ils ont compris. Comme en témoignent les Écritures. D'ailleurs, ce ne serait pas très flatteur pour eux de se représenter en disant « non, mais j'y crois pas », alors qu'on vient leur annoncer la résurrection. S'ils s'étaient attendus à la résurrection, ils l'auraient dit, ils auraient sauté sur l'occasion dès qu'on leur a annoncé. Or, ce n'est pas le cas. Ils refusent de le croire. Eux aussi, ils savent que les gens ne ressuscitent pas comme ça, qu'il y aura une résurrection à la fin des temps, mais dans le temps actuel, il n'y a pas de résurrection. Donc, ils ne s'y attendent pas. Donc, il y a en fait... aucun des critères essentiels pour une hallucination individuelle ou collective. D'autant que l'hallucination, encore une fois, n'explique pas la tombe vide. Et puis surtout, n'explique pas non plus la propagation. Si 10 apôtres n'ont pas réussi à convaincre Thomas que Jésus était ressuscité simplement parce qu'eux l'avaient vu, comment est-ce que Pierre, qui était... un peu le traître et le lâche du groupe, aurait pu convaincre à la base les 10 apôtres qu'il avait vu Jésus ressuscité. Donc une hallucination ne permet pas de convaincre les gens. Des apparitions en chair et en os, ça permet de convaincre les foules. Au niveau des visions, C'est globalement la même idée, sauf que ça inclut la notion de vision qui s'est, merci, de vision qui s'est développée avec le temps et qui est devenue une légende. Ce genre de vision où il y a quelqu'un qui vient pour nous enseigner des choses, quelqu'un qu'on connaissait de notre vivant, qui est mort, qui revient, qui nous enseigne des choses et qui nous donne le Saint-Esprit et ce genre de choses, ce genre spécifique de vision était complètement inconnu à l'époque. C'est-à-dire que on retrouve ça nulle part, ni dans l'Ancien Testament, ni à l'époque, ni dans la littérature juive, ni dans la littérature grecque. Personne ne connaît ce genre d'expérience. Il y avait des expériences de vision où on était emmené dans le ciel, où il y avait des anges qui nous apparaissaient, qui nous révélaient des choses par rapport à des prophéties, etc. Mais l'idée d'un ami imaginaire qui arrive et puis qui nous enseigne des choses sur la vie, ça, même quelqu'un qu'on avait connu notre vivant, personne ne l'a jamais vécu. Donc ce serait absolument extraordinaire et inattendu dans cette époque. Donc ça, disons que ça affaiblit quand même beaucoup l'argument parce que en général, quand les gens inventent des choses ou quand les gens ont des visions, ils ont des choses qui correspondent à leur culture. Là, c'est quelque chose d'inédit dans cette culture. Et encore une fois, ça n'explique pas la tombe vide. Et enfin, pour la question des légendes qui se seraient développées par la suite, c'est-à-dire que deux, trois personnes auraient vu soit des hallucinations, soit eu des visions, et par la suite, ça se serait développé en légende, ça suppose qu'il y a eu un temps assez long qui s'est passé entre le moment où ces événements sont passés et le développement de la doctrine de la résurrection. Or, on voit dans un des textes les plus anciens qu'on a, c'est-à-dire la lettre, l'épître aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 15, qui a été écrite d'après les théories donc conservatrices aux alentours de 54 après Jésus-Christ. On a déjà cette notion de Jésus qui est ressuscité. Il y a une mention en fait d'un ce qui ressemble à un hymne, une sorte de chant religieux. Sur Jésus. Donc, si Paul y fait référence, Paul écrit aux Corinthiens, il fait référence à un hymne que les Corinthiens sont censés connaître. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà rédigé cet hymne, ça veut dire que c'était déjà un consensus, et que l'hymne avait eu le temps de se répandre jusqu'à Corinthe. Donc, a priori, on peut compter plusieurs années en arrière. Alors, bon, après, ne me demandez pas exactement combien d'années les choses voyageaient pas aussi rapidement qu'aujourd'hui où on peut tweeter et puis c'est déjà l'autre bout du monde. Mais on peut compter déjà plusieurs années en arrière pour la composition de cet hymne et donc le consensus dans l'Église encore plusieurs années en arrière, etc. Ce qui veut dire que peut-être 10 à 15 ans avant l'Épître aux Corinthiens, il y avait déjà une croyance et un consensus sur la résurrection. Donc pour que ça se développe en légende, il faut beaucoup plus de temps que ça. C'était encore une époque où la plupart des gens qui avaient vécu à l'époque de la mort de Christ, était vivant. Donc, quand on écrit une lettre pour dire « Vous le savez tous que Jésus est vraiment ressuscité », il y a des témoins encore vivants qui peuvent vous dire « Bah ouais, j'y étais. » Un peu comme, je sais pas, j'étais au Mondial en 2000, ouais, j'y étais. Ils n'avaient pas les selfies, mais il y avait leur témoignage. Et encore une fois, voilà, le récit de la résurrection ne correspond ni aux attentes juives, ni aux attentes gréco-romaines. C'est-à-dire que si c'est vraiment une légende qui s'est développée par la suite, elle ne correspond absolument pas à la culture dans laquelle elle a été développée. C'est-à-dire que les Juifs ne s'attendaient pas à une résurrection du Messie directement, etc. Les Grecs et les Romains disaient la résurrection, non merci, parce que le corps, c'est une enveloppe charnelle mauvaise, il faut s'en libérer. Donc la résurrection, c'est revenir en arrière, enfin, ça n'a aucun sens. Donc voilà, quatre faits historiques. Jésus est mort, son tombeau est retrouvé vide, ses disciples croyaient sincèrement qu'il était ressuscité et l'Église s'est établie et répandue. Quatre théories alternatives, le vol du corps, les femmes qui se trompent de tombe, Jésus seulement évanoui ou c'est un imposteur ou c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place, et les hallucinations ou les visions devenues légendes. Et en fait, aucune de ces théories ne rend compte des quatre faits qu'on a évoqués au départ. Alors, c'est une démonstration un peu complexe, bien sûr, mais en même temps, si la personne nous demande de lui prouver la résurrection, elle est en train de nous demander un cours d'histoire, une enquête. Et c'est un peu comme un épisode de, je sais pas, des experts. Un épisode ne se fait pas en 5 minutes, il se fait en 40 minutes. Donc, si la personne veut vraiment une réponse, bah vous lui dites, bah voilà, je vais t'emmener sur les experts Jésus, les experts en Palestine. Et du coup, ça va prendre 40 minutes. Tous ces points-là, parce que je me rends compte que c'est beaucoup de choses. Je les ai développées beaucoup plus en détail à partir d'un livre qui s'appelle Jésus, la parole est à la défense de Lee Strobel. Je les ai résumés sur mon blog Journal d'un chrétien. Donc si vous tapez Journal d'un chrétien, résurrection, vous tomberez sur, je sais pas, il y a une vingtaine d'articles qui redétaillent tous les aspects pour la fiabilité de la Bible, pour les mythes sur la résurrection, donc les quatre théories alternatives que je viens de mentionner, et sur l'établissement des quatre faits historiques que j'ai mentionnés. Donc ça peut être aussi un bon outil pour renvoyer vos amis qui veulent en savoir plus sur ces questions-là. S'ils ont une théorie particulière là-dessus, vous pouvez leur dire, bah voilà, il y a un journaliste qui a passé 2 ans de sa vie à explorer la question et à la fin, il s'est converti. Donc voilà, un petit compte rendu en ligne là-dessus. Voilà, est-ce que vous avez des questions particulières là-dessus? Au point de vue logique, oui. C'est assez long, donc ça dépend de ce que la personne en face de toi va être prête à accepter. À la limite, ce que tu peux faire, c'est dire, ben, on sait que, après tout, c'est ce que beaucoup de gens utilisent, oui, mais on sait très bien que. Donc, on peut dire, on sait que, on est prêt à le défendre, mais on n'est pas obligé de dire, alors, la Bible est fiable, nanana. On peut commencer direct avec, on sait que Jésus est mort par crucifixion, que son tombeau a été retrouvé vide. On peut commencer par les quatre faits. Si la personne remet en cause la fiabilité des sources historiques, on peut commencer alors, on peut revenir un peu en arrière et lui montrer que, en fait, si la Bible est quand même un document fiable. Et encore une fois, on peut pas défendre à quelqu'un qui a une autre vision du monde que la Bible est complètement fiable. À moins d'être chrétien, en fait, on peut pas défendre l'inspiration de la Bible. On peut montrer qu'elle est extrêmement fiable, qu'elle est extraordinaire par rapport à tous les autres documents, au point qu'il faut se poser des questions. Mais au final, sans la foi, on ne pourra jamais montrer qu'elle est fiable à 100%. Donc, c'est pas ça qu'il faut essayer de défendre. Seulement, on peut dire que bah, si on rejette la Bible, si on rejette la fiabilité de la Bible, en fait, on est obligé de rejeter la fiabilité de la plupart des documents historiques qu'on a. Donc, voilà. Que les originaux aient été faux. Ce qu'on peut Que les gens ont raconté des mensonges. Ben en fait, à partir du moment, enfin, c'est un peu ce que je reprends dans ces théories alternatives, c'est-à-dire que si les gens à l'époque ont écrit des choses fausses, alors qu'il y avait encore des gens vivants dans la région qui voyaient ces choses circuler, y compris des opposants qui avaient très intérêt à ce que les mensonges ne se répandent pas, pourquoi personne l'a prouvé? Pourquoi les chefs juifs n'ont rien pu faire pour empêcher la propagation? Si c'était faux, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui se sont mis à y croire? S'ils avaient vu eux-mêmes Jésus mort et que le mec qu'ils avaient vu ressusciter, c'était pas le même, pourquoi est-ce qu'ils y ont cru? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont allés au bout du monde et qui ont été prêts à mourir pour ça, tu vois? Encore une fois, ça prouve pas à 100%. La personne peut toujours dire oui, mais il se peut que. Le fait est que son il se peut que est une théorie souvent beaucoup plus extraordinaire et qui demande beaucoup plus de et si, et si, et si, que la théorie, et si il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Et en l'occurrence, pour nous, cette chose extraordinaire, c'est la résurrection. On ne demande pas forcément à la personne de croire que Jésus est ressuscité, et on peut dire qu'on a de bonnes raisons d'y croire. C'est la différence. On n'est pas en train d'essayer de convaincre la personne que Jésus est ressuscité, on est en train de lui convaincre que notre croyance en la résurrection est raisonnable d'un point de vue historique. Enfin, d'ailleurs, personnellement, moi, c'est après m'être converti que, par conséquent, j'ai accepté tous les points doctrinaux. Jésus est ressuscité, il est venu, il est mort pour mon péché. Etc. Moi, quand je me suis converti, j'avais même pas vraiment la notion de péché. Je voyais juste que la vie que je voulais, c'était celle que les gens vivaient, ces gens qui croyaient en Dieu. Et c'est pour ça que je me suis converti. C'est pour voir si c'était vrai, pour avoir accès à ça, pour y goûter, parce que j'avais déjà goûté un peu de l'extérieur, j'avais goûté à la bénédiction de vivre en immersion parmi des chrétiens, et j'ai voulu voir si c'était vrai de l'intérieur. Et en fait, une fois à l'intérieur, j'ai encore plus enquêté sur les choses, et c'est pour ça que je suis resté chrétien. Mais au final, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'est pas chrétien que ces choses, que le fondement de notre foi est vrai, parce que si on les convainc que c'est vrai, d'office, ils vont changer de vision du monde complètement. Et on n'a plus rien à faire. On peut juste les convaincre que c'est raisonnable. Voilà. En tout cas, que c'est pas parce qu'on est bête qu'on est chrétien. Pardon ? On peut prier pour qu'ils soient illuminés, c'est indispensable, oui. Voilà, je sais pas où on en est au niveau du temps. C'est bon ? Ah, il y avait juste une question peut-être derrière. Ou on peut en parler après peut-être si, enfin, après, ok, ça marche. Merci.